Qu'est-ce que ça veut dire que la concertation législative? Ça veut dire qu'on va prendre un domaine social, économique, peu importe, et on va dire, bon, on fait quelque chose là-dedans. Donc on va dire, il faut bien le faire, il faut le faire de façon très précise, et on va le faire avec des représentants de ce secteur-là. Et alors, quand on parle de pollution, on peut être amené à faire la loi avec les industries qui polluent. Quand on parle de pharmacie, on peut amener à faire les décrets d'application avec les pharmaciens. Quand on parle des problèmes immobiliers, on peut être amené à faire la loi avec les représentants de promoteurs immobiliers, et ainsi de suite. La concertation de l'élaboration de la loi, c'est aussi, possiblement, cela. Alors, donc, on voit bien comment cette loi égale pour tous, et dans son élaboration même, déjà, le fait de certains, et non pas de tous. Ensuite, dans son application. Alors, on dit que la loi est applicable à tous. Et j'ai dit en commençant que pour qu'elle soit applicable à tous, il faut qu'elle soit connue de tous. Parce qu'effectivement, on ne peut pas appliquer la loi à des gens qui ne la connaissent pas. Il existe comme ça un principe en France selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. Mais en réalité, on s'aperçoit que, effectivement, il y a des gens qui ignorent totalement la loi pour des raisons culturelles. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de textes qui sont absolument incompréhensibles pour la plus grande partie de la population et qui sont donc uniquement à la disposition de ceux qui ont la possibilité de les comprendre. Et puis quelquefois ça va plus loin. Par exemple, la loi Debré a proclamé sa non-publicité. Vous vous souvenez de cette loi au sujet de la situation militaire qui dit qu'il est interdit de publier la loi. Et en quelque sorte on fait une loi, mais il est interdit aux citoyens de la connaître. Donc c'est dire qu'on l'a fait, mais en même temps on décide d'emblée qu'elle ne pourra pas être appliquée puisque les citoyens qui peuvent en bénéficier ne la connaissent pas du tout. Bien, mais cela ne, disons, allons plus loin et dans l'application de la loi, regardons un peu ce qui se passe. En fait, tout le monde est conscient que la loi n'est pas appliquée de façon égale à tous. Et tout le monde sait bien que qui volera un œuf aura 6 mois de prison et qui volera la tour Maine Montparnasse sera peut-être décoré. Et je crois que pourtant c'est presque le même texte ou pour ainsi dire la même chose, et il nous faut donc, enfin il faut un peu qu'on s'approche de cette chose là pour quelle raison en fait une loi qui se dit égale pour tous arrive au niveau de son application à être totalement inégale. Bien, à cela à cela il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord le fait qu'il y a une hiérarchie entre les lois. C'est-à-dire que, par exemple, quand à la fin de la libération, les paysans ont obtenu une loi pour garantir la possibilité d'être fermier, il y a eu un statut des baux ruraux qui donnait un certain nombre de garanties à ceux qui cultivaient la terre, en 1945. Et cette loi, normalement, était plus favorable aux travailleurs qu'aux propriétaires de la terre. Mais cette loi, qui est le statut, pareil, le statut des baux ruraux, cette loi est une loi d'exception. Et en réalité, elle doit être interprétée en fonction des lois qui existent avant. Alors, qu'est-ce que ça a donné dans la pratique? C'est que les lois qui existent avant, c'est le code civil. Code civil qu'on a appelé le petit livre rouge de la bourgeoisie. Et ce code civil, dans un exemple très concret, a donné le résultat suivant. Il était dit dans le statut des baux ruraux, le propriétaire d'une terre ne pourra expulser son fermier que si c'est pour installer un de ses enfants. Et ça part à l'idée, dans les gens qui ont élaboré cette loi, que bon, il fallait garantir les droits du fermier, mais s'il y avait un jeune qui voulait s'installer sur la terre, eh bien, c'était normal de donner la préférence à un jeune agriculteur. Mais la notion d'enfant n'était pas définie dans le statut des baux ruraux. Alors les juges, lorsqu'ils ont à appliquer la loi agricole, l'appliquent en fonction des autres lois et des autres normes, et la norme principale, c'est le code civil. Or, cette norme du code civil, quand on parle d'enfant, ne fait pas distinction entre jeune et vieux. Et c'est ainsi que, dans une affaire, un fermier a été expulsé par un propriétaire qui avait, je crois, 95 ans, pour installer son enfant qui en avait 71, ce qui est un détournement complet de la volonté du législateur, mais ce qui est parfaitement logique dans la hiérarchie des normes. Et dans ce code civil, il est bien clair qu'il y a aussi une hiérarchie. Il y a une hiérarchie au sommet de laquelle se trouve le droit de propriété. Et ce que je dis là correspond d'une part à une analyse quantitative du code civil, dans laquelle il y a 1800 articles qui sont consacrés aux droits de propriété et le reste, c'est-à-dire une 500 à peu près, aux autres droits, mais correspond aussi à ce que disaient les auteurs du code civil. Le seul texte que je vais lire, je l'ai apporté ce soir, c'est celui d'un des quatre auteurs du code civil, qui s'appelle Portalis, et qui a écrit « Tous les titres du code civil ne sont que le développement des règles relatives à l'exercice du droit de propriété. Ce qui prouve déjà que la propriété est la base de toute législation, la source de toutes les affections morales et de toutes les jouissances auxquelles il est permis à l'homme d'aspirer. » C'est clair. Alors, évidemment, quand on se trouve devant un tel mécanisme, une telle façon de monter l'interprétation de la loi, de faire fonctionner le système juridique, on s'aperçoit que la loi peut être égale pour tous, mais elle sera certainement plus égale à ceux qui sont propriétaires qu'à ceux qui ne le sont pas. Et c'est si vrai que, par exemple, dans la première version du Code civil, il était écrit au sujet des rapports entre le patron et l'ouvrier, au sujet de la preuve, que le patron serait cru sur sa parole, tandis que l'ouvrier devrait rapporter la preuve. Donc, je veux dire, maintenant, ça paraît folklorique, mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est les mêmes qui ont écrit ça, qui ont écrit ce que je viens de dire, et qui ont écrit le code civil qui reste applicable. C'est-à-dire que ça, c'est profondément, de façon sociologique, avec une pesanteur très solide, à l'intérieur du fonctionnement des lois, et du fonctionnement du code civil. Mais il y a une troisième chose qui est aussi très importante dans l'application inégale des lois entre les gens, et qui est d'ailleurs en même temps une chose importante pour les luttes à mener sur le terrain judiciaire. Cette chose-là est la suivante, c'est que quand on élabore une loi, c'est à l'issue, en règle générale, de conflits dans une société, bon, la loi sur l'avortement, qui est d'ailleurs la démonstration parfaite, finalement, ce que je veux dire, quand on fait la loi sur l'avortement, qu'est-ce qui se passe? On a au gouvernement 51% des Français, je ne sais pas s'ils sont de droite, mais enfin tout le monde pense que c'est un gouvernement de droite, et de l'autre côté 49% des Français qui sont dans l'opposition. C'est le gouvernement qui propose la loi, mais pour arriver à la faire voter, il a fait voter grâce à des voix de gauche. Alors, quand le juge se trouve devant cette loi, il doit l'interpréter dans la pensée de Giscard d'Estaing ou dans la pensée de Mitterrand. Voilà, disons, la contradiction normale et naturelle dans laquelle se trouve toujours le problème de l'interprétation de la loi. C'est qu'elle est toujours le résultat d'un conflit, d'un affrontement, et elle est un compromis. Et pour faire ce compromis, la manière de le réaliser, c'est en règle générale de laisser dans la loi un certain nombre de points qui sont, on dit en suspens, qui sont pas clairs, et qui sont des points sur lesquels on peut interpréter. Les exemples, c'est que dans des lois, on trouve très souvent la notion d'ordre public. Et là, j'en viens à l'affaire de Charette, si vous voulez, qui me paraît être, qui est l'affaire Chaperon d'ailleurs, et non pas l'affaire de Charette, qui me paraît donner un bon exemple de ce problème de l'interprétation de la loi. Qu'est-ce qui se passe dans l'affaire Chaperon? Monsieur Chaperon est poursuivi pour avoir fait l'objet de poursuites pour avoir, semble-t-il, des problèmes avec l'argumentation du travail. Il est présenté devant un juge d'instruction. Et le juge d'instruction, il a la possibilité, et même le devoir d'ailleurs, de mettre en prison quelqu'un si les faits qui sont reprochés à ce quelqu'un ont troublé gravement l'ordre public. Qu'est-ce que c'est que l'ordre public? C'est ce qui est dans le texte de la loi, si les faits ont troublé l'ordre public. Mais nul ne sait Qu'est-ce que l'ordre public? C'est une notion, justement, de cette nature-là, de ces notions imprécises, vagues, résultat du compromis. Alors, la notion d'ordre public, il y a des interprétations. Il y a celle, style parisien libéré, l'ordre public, c'est le gauchiste qui vend un canard, une feuille d'extrême gauche dans la rue, qui a si possible des cheveux longs, qui n'a pas de carte de ceci et qui est un petit peu immigré par là. Et celui-là, il trouve l'ordre public. Bon, il y a d'autres définitions possibles, et c'est bien le problème auquel se trouve confronté le juge de Charette. Est-ce qu'il considère que le fait qu'un ouvrier soit tué dans une usine met en cause l'ordre public parce qu'il est contraire à l'ordre public qu'un ouvrier meure au travail dans des conditions qui sont celles que l'on connaît? Eh bien, à ce moment-là, le juge de Charette fait rentrer dans la notion d'ordre public un contenu qu'on n'y met pas habituellement. Parce qu'en règle générale, effectivement, on interprète la notion d'ordre public d'une façon qui est celle de la façon dominante, du moins celle que souhaitent probablement les classes dominantes de la société, qui est celle de considérer que l'ordre public, c'est effectivement ce qui se passe dans la rue. Même problème, si vous voulez, pour la délinquance financière. Si quelqu'un se fait ramasser dans la rue ayant volé, je ne sais pas quoi, à l'arraché un sac de dames ou autre chose dans la rue, le juge aura tendance à considérer que, puisque ça a été public, c'est une violation de l'ordre public. Un promoteur immobilier qui aura mis la main dans la poche de 150 souscripteurs pour leur soulever délicatement une dizaine de millions à chacun d'entre eux, l'aura fait dans le calme de son cabinet et dans la tranquillité du rapport avec son comptable, d'une façon absolument non publique, et on trouvera ce même promoteur immobilier en liberté provisoire d'assez nombreuses fois. Et donc, là, vous voyez comment la loi, par toute une série de notions, comme l'ordre public, mais j'aurais pu prendre d'autres notions, par exemple la notion de bon père de famille. Il est dit dans les contrats de logement, ici à Paris, qu'on doit jouir des locaux en bon père de famille. Bon, qu'est-ce que ça veut dire le bon père de famille? Bon, d'abord, ça ne veut pas dire qu'on ait des enfants, je rassure tout le monde. Mais c'est une notion complètement vide. On y met, le juge y met ce que il veut y mettre ou il peut y mettre. Et en règle générale, qu'est-ce qu'il y met? Eh bien, il va y mettre le mode de vie dominant de la société à laquelle il appartient. Et si, je ne sais pas, ne prenez pas l'exemple que je vais donner comme du racisme à l'envers, mais si une famille d'immigrés s'installe là-dedans, que, bon, compte tenu de leur mode de vie, ils vivent en bons pères de famille, mais c'est des bons pères de famille Touareg, ou des bons pères de famille somaliens, ou je ne sais pas trop quoi, est-ce que le juge, ça va amener un certain nombre d'événements dans l'immeuble, c'est à penser du moins, est-ce que le magistrat pourra dire dans son jugement, mais attendu que l'intéressé et sa famille vivent en bons pères de famille, mais en bons pères de famille de ce qu'ils sont eux, ou est-ce qu'il ne le fera pas? Et c'est bien là le débat qu'on trouve à chaque instant de l'interprétation de la norme. C'est qu'en réalité, tout un mandat est laissé en blanc au magistrat en espérant qu'il va interpréter la loi de la façon dont on le souhaite, sans oser le dire. Parce que le pouvoir ne peut pas dire de façon claire et nette « Je ne veux pas qu'on mette les promoteurs en prison, je ne veux pas qu'on mette les patrons en prison. » Il dit simplement « On ne peut mettre en prison que s'il y a violation de l'ordre public. » Parce qu'il espère que les juges, eh bien, les juges penseront de la façon dont il faut penser. Et c'est là où je vais d'une part m'arrêter, d'autre part un peu initier le débat, c'est qu'on s'aperçoit que justement à l'heure actuelle, il commence à y avoir des magistrats qui font une autre interprétation de la loi. Une interprétation de je ne sais pas qualifier, est-elle alternative, est-elle de gauche, est-elle de je ne sais pas trop quoi, peu importe. En tout cas, elle est différente. Et comment ça s'est produit ça? Ça s'est produit par le fait que un certain nombre de magistrats ont commencé à essayer de voir d'autres modes de vie, d'autres modes de pensée que ceux de la classe à laquelle le plus souvent ils appartiennent. Et qu'ils ont essayé de faire passer petit à petit d'autres aspirations, d'autres classes dans l'application de la loi. Alors qu'une façon générale, ils faisaient passer que les applications de la classe dominante. Et ceci a conduit effectivement à un certain nombre de clashs qui, eux-mêmes, ont été révélateurs, pour en revenir à l'introduction en quelque sorte, de la crise de l'institution judiciaire. C'est qu'à partir du moment où on commence à vraiment utiliser la loi dans toutes ses possibilités, alors à ce moment-là, c'est la loi elle-même qui commence à être en cause et à, quelque sorte, exploser.
Bien, ça fait exactement une heure, parfait. Bon, bah, on va engager le débat, je pense qu'il y a trouvé. Il y a toujours un micro ici. Donc je répète, ça peut être soit des questions qui sont posées à Dominique Charvet pour des précisions, ou soit des interventions, soit des demandes.
Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'évolution de la justice, enfin l'institution judiciaire, dans le, disons, dans le mode de production capitaliste ou même en avant et le mode actuel, c'est-à-dire est-ce que le nombre de juges et d'avocats augmente, est-ce qu'il y a une évolution de l'importance de la justice dans les affaires publiques, enfin entre guillemets affaires publiques, enfin, dans l'ensemble de la société, est-ce que ça prend une importance quantitative, est-ce qu'il y a une évolution des conflits, enfin de l'importance que le régime doit accorder à la justice et qui doit, peut peut-être se vérifier quantitativement.
Bon, moi je vais vous dire ce que l'analyse qu'on fait, et elle est, pour l'instant, elle n'est pas encore définitive. L'analyse qu'on fait, c'est que dans les temps qui viennent de passer, d'abord dire que le débat, ce n'est pas la loi. Hein. Le débat au-delà, c'est la norme sociale. C'est qu'est-ce qui réglemente notre mode de fonctionner. Hein. Bon. Et alors, pendant toute une période qui est celle du 19e, le début du 20e, c'est majoritairement par le truchement de la loi que la norme sociale est imposée à tous. C'est-à-dire, on se trouve dans une situation d'idéologie juridique. Bon, on le trouve même dans le savoir populaire. Quand quelqu'un dit « nous sommes en République », c'est un certain mode de fonctionnement quelque part par rapport à la libération de la loi. Quand on dit « c'est mon droit », ça n'est pas mon droit. C'est aussi quelque chose qui est très imprégné. Bon, et qui a duré, qui a été une conquête dans certaines mesures par rapport à l'Ancien Régime, et qui a duré un siècle et demi. Nous, dans les temps qui viennent de passer, nous avions le sentiment que le pouvoir social, tout un droit du travail dans les 30 ans qui viennent de passer. Et donc, peu à peu, on apercevait une conquête de l'outil, de la technique par les classes populaires. Et en même temps, on voyait, et on voit d'ailleurs toujours le pouvoir, en train de chercher d'autres modes de régulation sociale. Et ces autres modes de régulation, nous, on en cite deux, mais il y en a peut-être d'autres, c'est le recours à deux choses qui se complètent, qui sont d'une part le recours de plus en plus fréquent à des techniques de rationalisation de la société sur des bases économiques. Et je pense notamment au modèle informatique, à l'utilisation de l'outil statistique, à tout ce qu'on appelle les techniques d'organisation et méthodes et de management, etc., etc. C'est-à-dire trouver dans une autre technique la légitimité du pouvoir. Parce qu'au fond, une technique, c'est aussi et surtout la légitimation d'un pouvoir. Bon, ça, c'était en quelque sorte la gestion globale. Et puis, il y avait les aspects marginaux, les aspects contradictoires, et qu'avait souvent traité la justice par la voie de la correctionnelle, en quelque sorte. Bon, la correctionnelle dans laquelle... Enfin, par la correctionnelle, par la voie pénale, qu'on liquide les déviants de la société. Bon, je pense là aussi à des trucs très populaires, comme Jean Valjean, tout le réalisme de la fin du 19e, début du 20e. Et ça, on le voit remplacer, cette sanction, par autre chose qui est le recours de plus en plus grand aux sciences humaines et aux sciences sociales. L'utilisation des sciences humaines et sciences sociales. Désormais, on ne vous envoie plus à Cayenne parce que vous avez volé une pomme, mais on vous envoie dans un IPES parce que votre Oedipe ne va pas bien. Mais, en gros, c'est la même chose, c'est du contrôle social. Bien. Et ça, c'est le glissement, quelque soit, qui est en train de se produire. Et puis, tout d'un coup, on se trouve dans une période de crise, et ce dépassement du pouvoir, ce dépassement plutôt du droit auquel on était en train d'apercevoir, il semble être relayé par autre chose, qui est une régression, qui est la notion de sécurité. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus se développer l'idée qu'une des valeurs fondamentales de notre société, c'est d'assurer la sécurité des gens. Et cette sécurité, c'est quelque chose qui risque peut-être de l'emporter sur les droits eux-mêmes et sur les libertés eux-mêmes. Et je dis que c'est une régression parce que, quand on regarde la loi, on s'aperçoit, comme je l'ai dit, qu'avec tous les défauts qu'elle a, elle est un petit peu connue, elle est un petit peu contradictoire, elle est ambivoque, etc. C'est-à-dire que quand on regarde la notion de sécurité, on s'aperçoit que c'est une notion complètement monolithique. C'est-à-dire qui ne souffre qu'une seule interprétation, celle que lui donne le pouvoir. Et au nom de cette sécurité, on va voir peut-être remettre en cause des libertés et des droits qu'on avait précédemment, par exemple le contrôle d'identité, le contrôle des voitures, les peines automatiques, etc. Donc, pour synthétiser ce que je viens de dire là, à mon sens, l'arbitrage est actuellement entre soit un dépassement du droit vers des techniques plus légitimatrices en quelque sorte du pouvoir et méconnues des gens, mais en tout cas qui amènent toujours de l'oppression bien souvent, et puis une régression, parce qu'on est dans un moment d'affrontement, sur une notion de sécurité. Alors c'est intéressant parce que c'est un conflit qui s'est déjà produit dans l'histoire, on a d'autres périodes, notamment l'entre-deux-guerres, notamment ce qui se passe en Italie, là-dessus. Mais moi, je pense que l'idéologie juridique, c'est un facteur démocratique à l'heure actuelle parce que les gens s'en emparent et donc ça risque d'être dépassé.
Tu as dit que tu parlais en tant que syndiqué et moi j'aimerais bien avoir des précisions sur le syndicat de la magistrature et entre autres sur... ses liens avec d'autres syndicats et sur ce que les gens qui ont des rapports avec la justice peuvent attendre des juges qui sont syndiqués. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, qu'est-ce que ça veut dire être syndiqué dans la magistrature? C'est pas toujours très commode, mais enfin, le syndicat de la magistrature, c'est créé en 1968, mais pas seulement à cause de 68, il correspond probablement encore, d'une part à une revendication de modernisation de l'institution judiciaire, et puis d'autre part à une revendication de faire en sorte que le juge ne soit pas cet être séparé, tant dans ses mentalités que dans ses pratiques, des réalités sociales qui sont autour de lui. Alors, qu'est-ce que ça a été notre histoire? Très rapidement, je pense. Il faut dire que les premiers combats qu'on a menés, c'est d'abord des combats à l'intérieur de l'institution. Des combats, par exemple, pour obtenir, par rapport à ce que j'ai dit sur la hiérarchie, la notation, pour obtenir l'entrée d'un peu de démocratie dans l'institution judiciaire. Et par exemple, un de nos premiers congrès s'est appelé « Le juge garant des libertés est-il libre lui-même » C'est-à-dire qu'on dit... aux citoyens, allez voir le juge si vous avez des problèmes de liberté, et puis on tombe sur un juge qui est complètement aliéné, parce qu'il ne peut pas lever le petit doigt sans demander 3 autorisations, qu'il est noté à tout bout de champ, qu'on l'avance, on le bouge, etc. Donc des batailles pour instaurer la démocratie dans l'institution. Et le choix qu'a fait de ce point de vue le syndicat est le choix d'une démocratie, d'une lutte pour la démocratie à la base. C'est-à-dire, par exemple, nous avons revendiqué des assemblées générales de tribunaux. C'est-à-dire que dans chaque unité de production judiciaire, eh bien, il y a des réunions de magistrats, si possible d'ailleurs avec les non-magistrats, les greffiers, les fonctionnaires, etc., pour qu'il y ait un débat sur comment on gérait la boutique, qu'est-ce qu'on y produisait, etc. Bon, autre bataille à l'intérieur de l'institution, la bataille pour pouvoir s'exprimer vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est-à-dire la bataille contre le secret. Et bon, dès nos premières démarches, nous avons dit... Nous voulons parler à l'extérieur, nous voulons expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que l'institution. Et nous en avons trouvé d'ailleurs la légitimité dans le fait que, les citoyens, et puis bon, surtout ceux qui sont les plus opprimés, ont des comptes à nous demander et nous en avons à leur rendre. Et, par exemple, l'un de nos congrès aussi s'est produit après un sondage de l'Express au sujet des rapports des juges et de l'argent. et dans lequel on disait les juges sont dépendants de l'argent. Alors tous les juges ont mis la main sur leur cœur, où il y a leur portefeuille qui est généralement pas bien garni, il faut bien le dire, et ils ont dit mais non, on ne touche pas de pot de vin, on ne touche pas de ceci, on ne touche pas de cela, nous ne sommes pas dépendants de l'argent. Mais nous nous sommes dit mais s'il y a cette image-là, si nous sommes interpellés, il faut que nous en discutions publiquement avec les gens qui nous posent le problème. Et nous avons à ce moment-là avancé en nous rendant compte, ce qui était évident d'ailleurs, que le problème de la dépendance des juges par rapport à l'argent n'est pas un problème de dépendance, disons, physique d'une enveloppe qu'on donnerait, mais qui est tout simplement un problème sociologique qui fait que le juge appartient à un certain milieu, d'une certaine culture, de certaines fréquentations, et donc est amené à mieux comprendre les valeurs de ceux qui, en même temps, ont aussi l'argent que les valeurs de ceux qui n'ont pas l'argent. Et c'est de cette façon-là que les juges, effectivement, d'une certaine façon, eh bien, ils ne sont pas complètement indifférents aux problèmes économiques, d'une certaine façon. Alors ça a été nos batailles à l'intérieur qui nous ont amené toute une série de conflits difficiles, de répression. Et les juges ont ainsi pris conscience, du moins les juges syndiqués, je pense un certain nombre d'autres, qu'on ne pouvait obtenir des libertés que par des batailles, que par des batailles solidaires, et qu'on obtenait les libertés que par des batailles. Et ceci a sensibilisé donc la magistrature aux batailles extérieures qui se menaient. Et nous a conduit donc à nous rapprocher des gens qui menaient en dehors d'institutions judiciaires des batailles pour les libertés. Cela a donc mené à ce que nous ayons des relations avec les centrales syndicales, mais plus simplement aussi avec des gens qui, sur des terrains judiciaires, comme la prison, comme d'autres choses, les immigrés, etc., mènent des bagarres pour la liberté. Et de sorte que, bon, ça a produit beaucoup de choses, enfin, des choses très diverses, différentes, comme par exemple des prises de position sur les lois anti-casseurs, anti-drogue, la loi contre les associations, en même temps que ça a produit le fait que nous avons fait un communiqué de soutien à l'IP, que nous sommes allés à Cerizay pour rencontrer les ouvrières, pour discuter avec eux, et des choses comme ça. Alors, cela étant, le syndicalisme judiciaire ne suffit pas à lui seul, c'est bien évident. Parce que le syndicalisme judiciaire, c'est un lieu de bataille, qui est la bataille institutionnelle. Et il ne peut vraiment être productif que si, effectivement, il correspond à des batailles extérieures et s'il est mené avec eux. Et c'est pourquoi que nous entretenons effectivement beaucoup de relations avec les centrales syndicales, je dirais de préférence aux partis politiques, parce que nous pensons que nous devons d'abord nous situer comme des travailleurs, et donc tout normalement, puisque nous sommes syndiqués, nous devons être en relation avec les centrales syndicales. Et par exemple, nous tenons à la fin de ce mois un colloque, on appelle ça pompeusement un colloque, disons une réunion, à Grenoble avec la CFDT sur les accidents du travail, et la CGT aussi.
Oui, peut-être, tu avais proposé là tout à l'heure au début de ton intervention un thème de débat, parce qu'en gros, bon, toute la démonstration que tu fais, amène à conclure avec une démonstration, une chose qu'on peut savoir en général, parce que bon, la justice fait partie de l'appareil d'État, et que cet appareil d'État, il n'est pas neutre, c'est un état de classe, etc. Et alors, à la suite, tu as dit une chose, mais on peut se poser la question de savoir si ce miroir de cette société de classe est un miroir mécanique, est-ce qu'il reproduit purement et simplement les rapports de classe dans la société. Et moi, je voudrais qu'on aborde cette question, pas d'un point de vue, je dirais, idéologique ou théorique, mais peut-être à partir d'un problème auquel, j'espère, on va être confronté en France, auquel les camarades chiliens ou les camarades portugais, il n'y a pas si longtemps, étaient confrontés, c'est-à-dire comment, dans un processus révolutionnaire qui met à l'ordre du jour la destruction de l'appareil d'État bourgeois, et donc de son appareil judiciaire, comment les problèmes de justice qui se posent de toute façon, peuvent-ils être résolus? Et est-ce que vous avez eu vous-même une réflexion sur les expériences, par exemple, qui ont eu lieu au Chili de tribunaux populaires dans les campamientos, dans les regroupements de son logis, où effectivement, moi je l'ai vu par exemple, tous les problèmes de petite justice, je dirais interne à un camp de 10 000, 20 000, 30 000 personnes, étaient résolus sur la base de tribunaux populaires, sur la base de délégués élus, révocables par les groupes de maisons, etc. Il y a eu des expériences similaires au Portugal avant que la réaction reprenne un peu du poil de la bête. Alors, comment on peut traiter ce problème, disons, idéologique, d'un décalage entre le droit comme superstructure et la base de la société, mais du point de vue d'une lutte qui dépasse en ampleur et en objectif ce que tu as décrit, et qui pose le problème non pas de la modification, de la lutte démocratique à l'intérieur, ou d'un contrôle sur un appareil d'État et sur le fonctionnement de cet appareil d'État, mais qui pose le problème de sa destruction. Est-ce qu'il y a eu une réflexion sur ce problème-là ?
On a eu une réflexion qui a d'abord été très théorique. On s'est posé à des moments le problème de savoir, par rapport à tout ce que j'ai dit, qui était un peu compact, pour s'en débarrasser, est-ce qu'on pourrait espérer la disparition des tribunaux ? Est-ce qu'on pourrait espérer, la mort des juges, entre guillemets, et la fin du droit ? Donc c'est des questions qu'on s'est posées théoriquement à un moment donné. Et qu'on a eu, sur lesquels on n'est pas arrivé à des définitions précises, parce qu'on posait théoriquement, je crois. Puis maintenant, on essaye de voir les choses à travers des expériences concrètes qui sont menées. Alors, je voudrais d'abord dire une première chose, c'est des observations sur ce qui existe actuellement. Parce que, quand on pose le problème du contrôle populaire de la justice, ou du dépassement par le peuple de l'institution, il faut se dire que c'est pas uniquement le grand soir, c'est qu'il y a éventuellement déjà des points qui existent aujourd'hui, ici dans notre société. Et s'interroger sur comment ils fonctionnent et qu'est-ce qui se passe. Et de ce point de vue-là, deux exemples. Celui sur lequel je ne reviens pas, des jurés de cour d'assises, où le peuple, tiré au sort, vient donner son opinion sur des affaires. On a déjà vu que le peuple qui vient donner son opinion, c'était un certain peuple, au moins selon l'étude que j'ai citée. Ensuite, quand on regarde la production de cette participation populaire, on trouve des choses extrêmement déconcertantes. En même temps, des acquittements incompréhensibles, puis en même temps, la condamnation à mort d'un homme, récemment. Et on se dit, bon Dieu, mais à la limite, si le peuple vient au pouvoir, est-ce que c'est ça que ça va produire ? Et ce problème s'est posé d'ailleurs au Chili, ce point de vue-là. Donc on s'aperçoit que, il y a en tout cas, sur le mode de participation actuel du peuple à la justice, des trucs qui ne nous satisfont pas. Alors, si on va un peu plus loin, on prend un autre exemple, qui lui est un truc plus solide, qui est les tribunaux, les conseils des prud'hommes, dans lesquels le peuple, les ouvriers, ont obtenu de participer à la justice du travail. Et cette justice du travail est rendue de façon paritaire, vous le savez, deux patrons, deux ouvriers. Le juge n'intervient qu'en cas où il y a partage des voix. Et on devrait se dire, voilà une conquête, voilà un moment dans lequel on va voir exploser dans l'institution judiciaire elle-même les conflits qui restent à l'extérieur. Car c'est ça le débat. C'est dépasser l'institution, ça veut dire aussi que l'institution est à connaître, se trouve confrontée dans le conflit social. Et on s'aperçoit dans la réalité que bien souvent, ils sont d'accord. C'est-à-dire que patrons et ouvriers trouvent une solution commune. C'est-à-dire qu'en réalité, par des mécanismes qu'on ne comprend pas encore très bien, mais qui ont à voir avec l'utilisation du droit comme outil de résolution des conflits, aboutissent à des accords. Et que le Conseil des prud'hommes, bien loin d'être un lieu de conflit de classe, sont un lieu d'apaisement de ces conflits. Ah, c'est des gens élus, présentés par les syndicats et élus par les ouvriers. C'est un truc... Absolument, absolument. Alors, disons, là, on se pose déjà problème. On se pose nombre de problèmes qu'il faudra résoudre. Et moi, je ne parlerai pas du Chili parce que je le connais de façon uniquement livresque. Je parlerai du Portugal que je connais pour y avoir été deux fois cette année et pour avoir fait une sorte de tourisme judiciaire. J'ai rencontré, c'est un vice peut-être, uniquement des juges à l'occasion de deux voyages, l'un avant le 25 novembre et l'autre après. Et j'ai vu la chose suivante, qui peut-être n'apprendra, je crois qu'elle peut apprendre quelque chose parce que ça n'a pas tellement été connu. Bon, j'ai vu d'une part des gens qui étaient à la recherche d'un pouvoir populaire, c'est-à-dire qui essayaient de débrouiller leurs affaires. Et sur un truc très précis, qui est très important au Portugal comme ça l'a été au Chili, qui est le problème du logement. C'est-à-dire qu'au Portugal, il n'y a pas eu de logement social, on ne pourrait pas s'attendre à autre chose de la Salazar, et on s'est trouvé aussitôt après la Révolution devant des occupations de logement. Moyennant quoi, occupation de logement, les propriétaires sont allés voir les juges qui, appliquant l'ancienne loi, ont dit « il faut faire expulser ». Et le peuple a dit « je ne veux pas qu'on expulse ». Donc c'est opposé de façon populaire à l'exécution de la justice, avec l'aide souvent d'ailleurs du COPCON. C'est le premier pas en quelque sorte, ça a été une opposition populaire à l'exécution de la justice. Ensuite, dans un même quartier, les gens se sont dit « mais il faut quand même qu'on résolve aussi ces difficultés internes ». Et on a vu, par exemple, une commission d'habitants dans un quartier dans lequel se pratiquait, comme se pratique d'ailleurs partout, la sous-location. Dans une période de rareté, le locataire principal sous-loue un locataire secondaire qu'il exploite complètement. Une commission de travail, d'habitants prononçait une peine d'exil du locataire principal exploiteur de 15 jours du quartier. Et puis ça a été un petit peu plus loin, c'est qu'on a eu des exemples alors de véritables jugements ou de début du jugement populaire, des nombres d'affaires même graves, comme l'affaire de Thomas, qui est, vous le savez, l'affaire d'un ouvrier agricole qui était poursuivi pour avoir tué son patron qui était un latifundiste. Et les gens ont dit, mais la justice n'est pas capable, mais même pas légitime pour juger cette affaire-là, c'est nous qui allons la juger. Et ils ont fait une commission d'enquête publique, ils ont rendu une décision dans laquelle d'ailleurs il condamnait le latifundiste post-mortem et où il reprochait à l'ouvrier agricole d'avoir fait justice tout seul. Mais je veux dire, en même temps que se produisait ça, des conversations que j'ai eues, il m'est apparu que toutes les contradictions n'étaient pas résolues, parce que de façon très amusante, les gens qui faisaient une commission publique d'enquête ont demandé à un avocat de venir un jour, lui ont dit, tu sais comment on fait une convocation que ce soit valable. Et puis, dans une autre affaire, ils ont fait venir un juge un peu avancé. Ils lui ont dit, mais est-ce qu'on a bien fait l'interrogatoire? C'est bien comme ça qu'il faut faire? C'est-à-dire, bon, en même temps conquête de pouvoir, et en même temps reste de la recherche de l'ancienne légitimité. C'est-à-dire que ce n'est pas clair. Et pendant qu'existait cette montée-là, il existait aussi, parce que ça ne disparaît pas d'un seul coup, l'ancien appareil d'État, dans laquelle il y avait toujours la justice, il y avait toujours des juges. Alors il y a eu plusieurs réactions devant ces manifestations de justice populaire. Il y en a qui l'ont posé au niveau purement alimentaire. Par exemple, au Portugal, certains juristes se demandaient si le socialisme, ça voulait dire le chômage pour les juristes, des choses comme ça. Mais les gens un peu plus conscients se sont posé le problème de savoir est-ce qu'ils pouvaient rejoindre dans une pratique parallèle, en quelque sorte, ce qui était en train de se produire dans le peuple. Et alors ça pose des problèmes de démocratisation de l'institution judiciaire, parce que tout est resté en place, toute l'ancienne hiérarchie, de changement des outils juridiques, parce que toute l'ancienne loi est encore en place, parce que quand on fait la révolution, la première chose qu'on fait, c'est pas de dire on va faire des lois et on va se mettre à pondre des articles, etc. On s'occupe d'autre chose, c'est évident, et la loi ça suivra, mais la loi ça suit pas. Et les juges qui sont là, ils disent, ben moi je voudrais bien, mais je ne peux pas. Et alors, des pratiques existent ou essayent d'exister pour essayer d'accompagner le mouvement populaire. Je vais en citer une qui vous paraîtra un tour de passe-passe de juriste, mais qui est intéressante parce qu'elle met justement en lumière cette autre interprétation de la loi qui est possible. Voilà ce qui se passait. C'est une affaire dans laquelle, toujours en matière de logement, il y avait un propriétaire et une locataire qui n'avait pas passé de bail écrit. Et la locataire ne payait pas son loyer. Moyennant quoi, le propriétaire a dit, je veux l'expulser. Alors, il a été voir le juge, il lui a dit, ben écoutez, moi j'ai une locataire, elle ne paye pas mon loyer, il faut que vous me donniez l'ordre d'expulsion. Alors le juge a fait un jugement qui disait la chose suivante. Bien, cette situation est exposée ainsi, mais il n'y a pas de contrat de location. Donc s'il n'y a pas de contrat de location, je ne sais pas quelle est la situation juridique exacte. Donc la loi appliquée est obscure. Si la loi appliquée est obscure, le juge doit interpréter en fonction des circonstances générales, ce qui existe dans toutes les législations. Quand c'est obscur, le juge doit interpréter. Or, les circonstances générales sont actuellement dominées par le programme du MFA pour lequel le logement est d'ordre public. Donc, si jamais je voulais appliquer une expulsion, je ne pourrais pas parce que je serais contraire à l'ordre public. Et donc, puisque le logement est d'ordre public, ça me permet d'interpréter la loi qui est obscure, qui s'applique à un contrat qui n'existe pas, donc il n'y a pas d'expulsion. Voilà comment, si vous voulez, par un mécanisme qui effectivement paraît très compliqué, on essaye de rejoindre ce qui se passe dans la population. Et je crois que à ce moment-là, disons dans ce moment-là, c'est un des grands, d'ailleurs, je crois, un des grands débats de la période de transition, c'est d'arriver à voir comment on peut arriver à ce que ce phénomène de parallélisme soit se conjoigne. Et là, il y avait un débat qui était important, qui rejoint d'ailleurs un des débats de la justice en France, qui était la formation. C'est que certain nombre de juges se sont dit, finalement, pour arriver aussi longtemps qu'il existe un appareil judiciaire, ce qui n'était pas évident qu'il disparaisse, c'est de moins en moins le cas à l'heure actuelle, pour arriver à suivre un peu le mouvement populaire, il faut que les juges soient sensibles au mouvement populaire. Donc il faut donner une autre culture aux juges, pour qu'ils puissent faire rentrer d'autres échelles de valeur dans l'interprétation de la loi. Et donc le grand débat cet hiver quand j'y suis allé, c'était la création d'une formation des magistrats différents. Mais voilà, je ne sais pas si je vais répondre à cette question.